Bonjour tout le monde, ça va bien? Je voulais remercier tous ceux qui ont servi, qui nous ont donné un coup de pouce vendredi soir. Qui était ici vendredi soir? On avait quelques personnes pour le lancement de la Bible réformée, Bible d'études réformée. Ça a été vraiment un beau moment qu'on a vécu avec plein de gens. On était plus de 400 personnes vendredi soir. Alors, merci à tous ceux qui ont servi. Samedi matin, j'avais un brunch avec les responsables du ministère Ligonier qui ont réalisé cette Bible et de publications chrétiennes. Puis la première chose qu'on m'a dit, c'est merci pour votre Église, quelle belle communauté. Donc je vous transmets les remerciements, c'est très, très apprécié. Je pense que c'est un outil que Dieu va utiliser vraiment pour nous approfondir, nous aider à approfondir notre connaissance de sa parole. Ce matin, je vous donne un avertissement. Ce message n'est pas pour un auditoire grand public. Donc la discrétion des parents est recommandée. On est en train d'étudier la lettre de 1 Corinthiens. La lettre de 1 Corinthiens parle de débauche, d'inceste, de prostitution. Donc, c'est vraiment une lettre qui est troublante. Ce matin, on va parler de prostitution, de sexualité. Et vous me direz, ben Yannick, nos enfants évoluent dans cette culture-là. Donc, il n'y a pas de grande surprise. Attends-toi pas à nous choquer ce matin. Mais en même temps, vous savez, on aspire à ce qui est saint, S-A-I-N-T. Et la parole de Dieu nous confronte. Et ce matin, la lettre d'un Corinthien risque de vous provoquer. La parole de Dieu est provocante pour notre édification. On va aller ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, ta parole nous trouble, ta parole nous provoque, ta parole nous fait réfléchir. On te prie, Seigneur, de venir nous rencontrer ce matin par la puissance de ton esprit. Viens parler à nos cœurs. Viens, Seigneur, nous montrer si nous avons des angles morts dans notre foi, si nous avons des angles morts dans notre vie chrétienne, si nous avons des angles morts comme Église. Viens nous rencontrer, Seigneur Jésus. C'est dans ton précieux nom que nous prions. Amen.
Bon matin à tous. Alors, le passage de ce matin est dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, les versets 12 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, 1 Corinthiens au chapitre 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quel contre-péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen.
Merci, Danny. Est-ce que vous croyez, vous, qu'une culture, une société a des angles morts? Je pense que oui, hein? Des fois, c'est pas drôle, mais ça me fait toujours sourire un peu. Les Québécois, on est très attachés à notre culture, à notre langue. Il me semble que si on était très, très, très attachés à notre culture, à notre langue, on valoriserait beaucoup la famille, on voudrait avoir des enfants. Et on est dans une culture plutôt triste, qui est extrêmement pro-avortement, et même maintenant, vous savez qu'on a le record mondial, 20%, 17% des gens qui sont décédés l'an dernier sont décédés aidés par l'État. On appelle ça des suicides assistés. Et donc, même nos vieux, on favorise qu'ils s'en aillent assez vite, eux qui sont notre mémoire de notre culture. Donc, pour moi, c'est un angle mort extraordinaire. Tu veux sauver une culture, tu veux valoriser la famille, le Parti québécois devrait être le parti de la famille. Mais on a des angles morts. Est-ce que vous croyez qu'une église a des angles morts? Que l'Église en général. Moi, je pense qu'il y a des méchants angles morts. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, là, il y a de gros angles morts dans l'histoire de l'Église. On va en énoncer quelques-uns ce matin. Est-ce que vous croyez que vous avez peut-être des angles morts dans votre foi? Mais on va voir l'église de Corinthe, méchant angle mort, assez troublant, assez scandaleux. Et donc, je pense que Dieu risque de nous provoquer ce matin. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Si tu es chrétien comme moi, ton corps, le mien, mon corps et mon esprit sont unis à Christ. Et donc, je ne laisserai rien m'asservir parce que je veux être libre de le glorifier. Je veux être entièrement libre de glorifier mon Dieu, de célébrer sa gloire sans être asservi, sans aucune entrave qui m'empêcherait de le glorifier. Et l'église de Corinthe, ben cette église-là avait de méchants angles morts. On a déjà commencé à en identifier quelques-uns. Donc, le premier point, premier élément ce matin que je veux ressortir, j'ai appelé ça « confusion mondaine ». Quand la culture nous imprègne tellement qu'on ne voit plus ces angles morts, on devrait avoir une autre moralité, un autre style de vie, puis pourtant on est imprégné de la culture dans laquelle on vit. On a déjà vu au chapitre 5 qu'il y avait dans l'église de Corinthe de l'inceste, littéralement. Et donc, je vous rappelle le passage 1 Corinthiens 5, verset 1. « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les non-chrétiens, chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. » Et lorsqu'on arrive dans le passage de ce matin, bien, Paul va citer ce qui semble être un proverbe de l'époque ou quelque chose qui se disait chez les Corinthiens régulièrement, « Tout m'est permis. » Tout m'est permis. Paul dit au verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. » Oui, tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et Paul va revenir avec ça plus tard. On va le voir dans 1 Corinthiens au chapitre 10, verset 23-24. Paul va dire, « Tout m'est permis, encore une fois, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. » Donc, il semble que c'est un slogan à l'époque, puis dans un sens, c'est vrai que ça colle avec le christianisme. La religion chrétienne est une religion de liberté. Pensez juste au rite, parce qu'on est à Corinthe, il y avait énormément de temples. Puis là, tu arrives dans le christianisme, on a une foi qui n'est pas associée avec un temple. On ne pratique plus les sacrifices de l'Ancien Testament. On n'a pas à faire 5 prières par jour, on n'a pas à faire de pèlerinage dans notre vie. Donc, c'est très différent de bien d'autres religions. Les chrétiens ne possèdent pas de lieu sacré. Et là, je sais, certains d'entre vous, vous allez dire, attends. Dans l'Église catholique, il y a beaucoup de rites. Oui, mais aucun qui est prescrit dans le Nouveau Testament. D'accord? L'Église orthodoxe, l'Église catholique, beaucoup de rituels. C'est vrai, même des lieux sacrés, même des prières aux saints. C'est pour ça qu'on est protestant. On s'attache au Nouveau Testament, on s'attache à la Bible dans son ensemble. Et donc, il y a une grande liberté. Toutes ces choses-là ne sont pas présentes. Même dans le Nouveau Testament, on voit que les chrétiens ont adopté le premier jour de la semaine pour se réunir, le dimanche. Et on le fait, c'est vrai, mais ce n'est pas prescrit dans le Nouveau Testament. Donc, c'est adéquat d'avoir cette journée pour se rassembler. On fait ça depuis 2000 ans. Ce n'est même pas une prescription. Le christianisme est une religion de très, très grande liberté et de liberté même qui vont plus loin que ça, plus profonde, plus fondamentale que seulement des rituels. C'est vrai qu'on peut dire, on prie, on lit la Bible, on parle de nos dévotions. On appelle ça des moyens de grâce, c'est pas pour rien, ou des disciplines de la grâce. Ce sont pas des rituels au sens religieux du terme. J'ai pas à prier le matin et le soir, autrement Dieu va être fâché avec moi. Je n'ai pas à lire ma Bible au complet cette année, sinon pour être en relation avec lui. Ce sont tous des outils pour connaître Dieu, pour être en communion avec lui, pour être en relation avec lui. Ce ne sont pas des rites, même si on est des bibites de rituels. L'être humain, on est comme ça, hein? Vous viendriez chez moi, c'est comme si j'avais mon rituel, je fais toujours les mêmes choses chaque matin. J'allume ma machine espresso, j'écoute ma Bible, je m'en vais prendre mon temps de prière. Mais je ne le fais pas parce que je déplairais à Dieu si je ne le fais pas. Je le fais parce que j'aime Dieu. Je veux être en relation avec lui. Je veux le connaître. Je veux m'approcher de lui. Et donc, le christianisme est une religion de très grande liberté et même plus fondamentale. En Jésus, l'apôtre Paul lui-même va nous dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme, dans le sens qu'on est co-héritiers. Nous sommes égaux devant Dieu. Ce qui était proprement révolutionnaire à l'époque. Aujourd'hui, on prend ça pour acquis, mais à quelque part, c'est un fruit de cette vision judéo-chrétienne de l'humanité. Il va dire qu'il n'y a plus ni homme esclave, ni homme libre. Et donc, tu arrivais dans l'église, et dans l'église, tu pouvais avoir un esclave qui était légalement, pour l'État, encore esclave, mais qui était peut-être ancien dans l'église. Peut-être qu'il était ancien au-dessus de son propriétaire. Vous imaginez la bisbille que ça a fait dans l'église, ce mouvement-là d'émancipation. Il n'y a plus d'ethnicité, ni juif, ni grec. Et donc, on est appelé à évoluer dans la culture autour de nous avec un discernement qui fait qu'on comprend bien les libertés du christianisme. Il y a de très, très grandes libertés dans la foi chrétienne, mais en même temps, on ne veut pas être asservi, on ne veut pas devenir esclave de pratiques de notre culture qui sont en opposition avec Dieu. Et ça nous demande de développer du discernement. Et donc, Paul va dire, mais oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Usez de discernement. Je ne me laisserai asservir par rien. Donc, on avance dans cette culture en essayant d'avoir du discernement. Au chapitre 5, Paul l'avait dit comme ça. Verset 7, il a dit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, est immolé. » Il est en train de dire, « Votre ancienne vie, quand vous ne connaissiez pas Christ, il y avait plein de choses là-dedans qui étaient incohérentes, moralement, spirituellement, avec la foi chrétienne. Détachez-vous de ces choses-là. Vous ne voulez pas être asservi. Et pourtant, on a des angles morts. On a des angles morts qui font qu'il y a une confusion morale, même dans l'Église, parce que la confusion est là dans la culture. Une confusion mondaine. Voyez-vous, l'Église évolue au milieu de la culture. Paul vient de dire, je ne vous ai pas dit que vous ne devez pas être en relation avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Un tout petit peu plus tôt, il a dit ça. Non, au contraire, on doit être en relation avec ceux qui ne sont pas chrétiens. On est appelé à les aimer, à devenir leurs amis. On veut leur partager l'Évangile. On veut les aimer. Et donc, l'Église a toujours évolué au milieu de la culture d'une population qui a de bonnes valeurs, puis d'autres valeurs qui sont en opposition avec le christianisme. Et dans toutes les cultures, on appelle ça relève de la grâce commune. Tous les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Dans toutes les cultures, il y a des choses qui sont belles. Puis dans une culture, il y a tel aspect. Dans une autre culture, il y a tel autre aspect. En fait, pendant que j'étais en train de préparer le message, je pensais à tous ceux qui sont nés dans un autre pays, dans une autre culture, qui avait immigré ici. Vous arrivez ici, vous regardez les Québécois, puis vous dites, « Ça, c'est intéressant, il n'y avait pas ça dans mon pays. Ça, je ne sais pas. Hein? » Et vous arrivez dans l'église, et vous dites, « cette église-là est un peu imprégnée de la culture, un manque de discernement. » Soyons honnêtes, il y a des choses que vous voyez chez les chrétiens québécois, puis vous dites, « Pas certain que c'est très biblique, cette affaire-là. Vous êtes une grâce pour nous comme nous le sommes pour vous. » Nous sommes le peuple de Dieu et on est là pour développer ensemble un saint discernement à la lumière de la parole en ouvrant notre cœur à dire peut-être qu'on a des angles morts comme l'église de Corinthe et peut-être qu'on a des choses à discerner ensemble pour voir plus clair. Donc, il y a des pratiques qui sont bonnes, il y en a d'autres qui sont malsaines, il y en a qui sont à rejeter. Et ça produit dans la population, ces pratiques mondaines-là, des intuitions. J'ai appelé ça des intuitions culturelles. On a des sensibilités. Il y a quelques semaines, on a parlé du compas moral. Toute culture a un compas moral qui va dire ça c'est bien, ça c'est mal. Et nous sommes appelés à ajuster notre compas moral à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Et ça veut dire qu'il faut que j'ouvre mon cœur, mon esprit, à dire « Oui, mais j'ai peut-être des angles morts. Peut-être qu'il y a des choses qui sont très mauvaises. » Est-ce que vous croyez que l'Église peut avoir des angles morts? À travers l'histoire de l'Église, on en a vu plusieurs. Pensons aux croisades. Pensons à l'esclavage. Vous savez que ce sont des chrétiens qui ont réalisé que l'esclavage était un angle mort énorme? William Wilberforce, la case de l'oncle Tom, c'est des chrétiens qui critiquent une culture qui se dit chrétienne, puis qui dit « mais ça ne concorde pas avec la parole de Dieu, cette affaire-là ». Ces angles morts-là deviennent des intuitions. On les intègre, puis on se dit « ah, c'est bon, c'est normal, ça va, tout le monde le fait, mon voisin c'est quelqu'un de bien, puis il est confortable avec ça, donc ça doit être correct, Ça doit aller de soi. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais là, lorsqu'on arrive à Corinthe, c'est assez choquant parce que Corinthe était la ville des temples, la ville de la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour. Et donc, qui dit déesse de l'amour dit prostituée au temple. Et on sait que c'est factuel, et Hérodote va écrire même 400 ans avant Jésus-Christ. Il va parler des pratiques des Babyloniens qui se sont ensuite intégrées là et que les Romains ont gardées. Voici ce qu'il va dire. Les Babyloniennes, 400 ans avant Jésus-Christ, les Babyloniennes ont une loi bien honteuse. Toute femme née dans le pays est obligée une fois dans sa vie de se rendre au temple de Vénus, donc avant Aphrodite, pour s'y livrer à un étranger. Quelque modique que soit la somme, il n'éprouvera point de refus, la loi le défend, car cet argent devient sacré. Donc, c'est une prostitution. Enfin, quand elle s'est acquittée de ce qu'elle devait à la déesse, en s'abandonnant à un étranger, elle retourne chez elle. Là, on parle de 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, les temples d'Aphrodite en Crète, à Corinthe, étaient également connus pour cette pratique-là. Certains vont dire qu'il y avait des milliers de prostituées qui étaient là. Et là, l'angle mort absolument aberrant pour nous, c'est qu'il y a des individus qui sont devenus chrétiens et qui, de temps en temps, faisaient un petit détour par le temple d'Aphrodite pour aller voir une prostituée. Je veux dire, le texte est clair. Paul juge important de dire à l'Église, « Hey, les amis, la prostitution, c'est pas pour les chrétiens, là. » On est dans la lettre aux Éphésiens, on est dans le Nouveau Testament. Là. C'est pas, je ne suis pas en train d'imaginer quelque chose d'étrange. Là. Pourtant, Paul a besoin de dire à une église, « Tu ne peux pas aller voir une prostituée, mon ami. » Alors évidemment, pour nous, occidentaux, 21e siècle, on regarde ça et on se dit, « C'est pas un angle mort, c'est abominable. » Tu sais, c'est l'éléphant dans la pièce. Là. On n'est pas dans l'angle mort, là. C'est gros comme le monde. Un peu de la même manière que pour nous aujourd'hui, considérer l'esclavage comme quelque chose d'acceptable pour un chrétien, c'est énorme. Qu'est-ce que vous pensez que les chrétiens d'il y a un siècle auraient pensé de notre vision de l'avortement? Moyen de contraception. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Suicide assisté. C'est une chose d'avoir compassion, d'accompagner quelqu'un, de soulager la souffrance dans la mort. Sérieusement, là, tous les Québécois actuellement se disent, est-ce que ça va être le moyen de vider nos centres d'accueil pour personnes âgées? Je sais que c'est affreux ce que je viens de dire, mais vous l'avez tous pensé cette année, là. Est-ce que l'État est en train de se dire, ben finalement, tu sais, système, les soins de santé, c'est un budget trop gros, puis... Et honnêtement... Plein de personnes âgées, malades, se sont posé la question cette année, est-ce que je suis un fardeau? Est-ce que c'est le temps que je demande un petit coup de pouce pour décharger le système? Pour décharger le système, les chrétiens, il y a 100 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'il y aurait, comment est-ce qu'ils auraient envisagé cette notion-là? L'identité de genre. Parce qu'un enfant est profondément troublé, on pourrait le rendre incapable d'avoir des enfants pour la vie en lui donnant, dans son adolescence, des produits qui vont le rendre stérile à vie. Je ne devrais pas dire ces choses-là dans notre culture, c'est abominable. Ce que je viens de dire là, c'est honteux. Pardon? Qu'est-ce que les chrétiens d'une autre époque auraient pensé? Qu'est-ce que les chrétiens dans 100 ans vont penser de ces pratiques-là? Vous savez que ça arrive qu'un chrétien va dire à une chrétienne qui est enceinte, « As-tu pensé à te faire avorter? C'est peut-être pas le temps. » Pensez à notre rapport avec la pornographie. Notre société est tellement sexualisée. Vous savez qu'il y a des couples chrétiens qui servent de la pornographie pour les préparer à leur intimité? Essayez d'imaginer ce que les chrétiens auraient pensé de ça il y a 100 ans. Est-ce que l'Église a des angles morts? On a toujours des angles morts. On est toujours tenté d'avoir les mêmes intuitions que la culture. Et on va vers la parole de Dieu pour se mettre au défi, à savoir, Est-ce que j'ai gardé de ma culture ce qu'il y a de bon et de beau et j'ai discerné ce qu'il y a de mauvais? On n'est pas appelé à vivre à l'extérieur de la culture. On n'est pas appelé à ça. Le Québec a plein de belles qualités. Génial. On est des gens joviales. On est des gens pacifiques. On n'aime pas la chicane. C'est vrai? Des fois même, peut-être trop, on n'est pas capable de se dire la vérité. Mais on est jovial, on est accueillant, on aime ça. Il y a plein de qualités au Québec. Très ouvert sur le monde. Pas parfait. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a aucun racisme au Québec. Loin de là, mais vous voyagerez un petit peu, vous allez voir très ouvert sur le monde. Très curieux. Plein de belles qualités ici au Québec. Mais on a des angles morts. Notre culture les a et l'Église peut les avoir très facilement. Est-ce qu'on est prêt à aller vers la parole de Dieu pour qu'elle nous confronte, qu'elle nous remette en question, que notre compas moral soit ajusté à la parole de Dieu, par la parole de Dieu? On est appelé à développer un discernement qui va nous permettre de voir clair. Paul dit, oui, vous avez raison, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Puis Paul va citer un deuxième proverbe de l'époque. Il semble que c'est un proverbe à l'époque, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Une manière de dire, ben après tout, c'est juste de la nourriture, tu sais, ça va ensemble, il n'y a pas de problème. Et il pouvait l'appliquer parce que dans le contexte, c'était la sexualité. La sexualité, après tout, c'est un besoin physique, tu sais, on est un peu comme des animaux, puis bon. Tu vas te satisfaire. Après tout, c'est juste ça. Ce qui est très, très tendance dans la culture actuellement. Je veux dire, si tu fais partie de la génération des milléniaux ou des Z, tu as des boosts d'énergie, tu as des jeux vidéo, tu as de la sexualité, tu as de la pornographie. Tout ça, c'est des stimulants pour passer à travers les journées. C'est un peu ça que la culture nous enseigne. Il n'y a plus rien de sacré dans la sexualité. Et Paul est en train de dire, attends, t'as raison, la nourriture est pour le ventre et le ventre est pour la nourriture, mais Dieu va détruire les deux. Parce que bientôt, tu vas te présenter devant Dieu. Puis Dieu va nous ressusciter pour sa gloire. Et donc, ce que Paul est en train de dire, c'est, t'as raison, la nourriture est pour le ventre et le ventre est pour la nourriture, mais Dieu est au-dessus de tout sentiment naturel que tu peux avoir. Et donc, peut-être que naturellement, tu dis, ben moi, je regarde la nature, j'aime la nature, je vois les animaux qui copulent, il n'y a pas de problème. Ils sont assez libres en général, il y a quelques exceptions, les pingouins, OK, merveilleux. Mais en général, il y a pas mal de liberté dans ce monde-là. Hein? Puis, nous autres, on est des animaux. Non, on n'est pas des animaux. On n'est pas des animaux. De toute la création de Dieu qui est merveilleuse, qui est extraordinaire, qui est inspirante, on a des leçons à apprendre en regardant le règne animal. Mais de toute cette création-là, l'être humain seul a été créé à l'image de Dieu. Nous ne sommes pas des animaux. C'est pour ça qu'on est troublé par la guerre en Ukraine. Quand je me promène en forêt, vous savez que j'aime la chasse, quand je me promène en forêt, je n'accroche pas un orignal pour faire une conversation sur la guerre en Ukraine ou ce qui se passe dans la bande de Gaza ou ce qui se passe au Congo actuellement. L'environnement, conversation avec un orignal sur l'environnement, non? Dieu nous a dotés d'un sens moral qui fait que je m'en vais en forêt puis je ne le fais pas comme le reste de la création de Dieu. J'ai un sens, je dis, je veux laisser cette forêt-là en bon état quand je suis passé. J'ai un sens moral, j'ai été créé à l'image de Dieu. Et donc, Paul est en train de dire, c'est vrai, les aliments sont pour le ventre est pour les aliments. C'est vrai qu'il y a un aspect très naturel de tout ça, mais il y a une dimension beaucoup plus grande parce que Dieu va détruire les deux et tu vas te présenter devant Dieu. Et devant Dieu, tu auras à rendre compte de ce que tu auras fait avec tout ce qui est naturel. Parce qu'il y a un sens moral qui vient au-dessus de ça, qui vient au-delà de ça. Et c'est le sens de l'intervention de Paul ici. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et donc, Paul est en train de dire, on a une grande liberté dans la vie chrétienne, mais notre liberté nous a été donnée pour servir Dieu, pour le glorifier. Et Dieu nous a donné toute la création, toute l'humanité pour vivre librement comme chrétiens, libres de glorifier Dieu. Et donc, Paul dit, « Je permettrai à rien de m'asservir. Je ne veux pas être engagé dans des dépendances qui vont m'empêcher de glorifier Dieu. Je ne vais pas être imprégné des intuitions de la culture qui m'empêcheraient d'avoir un compas moral bien ajusté pour la gloire de Dieu, qui va me donner du discernement. » Il dit au verset 15 et 16, « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Si tu es chrétien, ton corps appartient à Christ, comme le mien. Des membres de Christ pour glorifier Dieu. Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, ils deviendront une seule chair, cite en Genèse. » Voyez-vous, quand on est habité de l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de frontières entre le sacré et le profane. Tout appartient à Dieu. Et donc, je m'en vais manger ce midi, je m'en vais marcher, je m'en vais consommer des loisirs, je m'en vais voir des amis, je m'en vais au cinéma. Tout est sacré pour moi. Pas sacré d'une manière que je suis pris, coincé, incapable d'évoluer dans la culture, mais sacré dans le sens que je veux regarder toute chose avec le discernement de Dieu, sachant que j'appartiens à Christ. Quand on est habité par l'Esprit de Dieu, il n'y a plus de frontières entre le sacré et le profane. Toute notre vie lui est consacrée afin de vivre cette grande liberté de toute forme d'esclavage que Dieu nous accorde par la puissance de l'Évangile. Amen. Quels sont les angles morts dans ta vie? Quelles sont les intuitions de la culture qui restent là dans ta vie? Cette semaine, je faisais un exercice. J'ai eu une autre bonne semaine de travail. Puis une journée, je regardais l'ensemble de ma journée devant moi. Puis j'ai dit, OK, ça va être exigeant ça. J'ai prié en commençant ma journée. J'ai dit, Seigneur, quand je rentre à la maison ce soir, je veux me reposer en toi. Je vais avoir la tentation d'aller me reposer dans toutes sortes d'autres choses que toi, qui ne seraient pas nécessairement mal. Mais bon, suivre une série ou quoi que ce soit, je ne veux pas que ce soit ça fondamentalement mon repos. Je veux que mon repos soit dans le Seigneur, que je lui remette mes fardeaux de la journée dans la prière, puis je dis, Seigneur, chaque jour suffit sa peine, ça s'arrête ici, je vais bientôt me coucher. C'est banal, mais tu sais, si ton repos c'est d'écouter une série, tu écoutes 3 épisodes au lieu d'en écouter un, tu te couches 1 heure plus tard. Le lendemain matin, tu ne te lèves pas, tu ne commences pas ta journée avec ce repos qui est d'aller rencontrer le Seigneur. On est tous pareils, là. Je ne suis pas en train de pointer personne. Mon repos est où? Je ne veux être asservi par rien. Quels sont tes angles morts? Et le test de la dépendance, de l'asservissement, est un des meilleurs tests. Tu veux savoir si tu es dépendant de quelque chose? Avant de partir ce matin, tu peux décider de ne pas le faire pour 3 mois. 3 mois. La semaine prochaine, on va même parler de couples qui décident de s'abstenir l'un de l'autre, couple marié, pour vaquer à la prière. Intense, hein? Mais tu veux savoir si tu as des dépendances, c'est facile. Parce que si ta réponse est toujours de dire « Ah, moi je peux arrêter quand je veux », ben, veux. Tout de suite, 3 mois, est-ce qu'il y en a qui prennent des décisions maintenant, là? Avez-vous le guts tout de suite comme ça? Paf! 3 mois, pas de sucre. 3 mois, pas de café. 3 mois, pas d'alcool. 3 mois, pas de Netflix. Je peux continuer si vous voulez. Il y en a certains, ça va être 3 mois, pas de tel sport, parce que c'est une dépendance, c'est une drogue pour moi, cette affaire-là. Je ne sais pas ce que c'est ta drogue. Ça devrait être Jésus. Ça devrait être Jésus. C'est un bon test. C'est un bon test. Intuition mondaine. Confusion mondaine. On a une église ici qui est chrétienne, qui connaît l'évangile de Jésus-Christ et certains hommes allaient vers des prostituées. Et vous pensez que notre culture, notre époque, l'église contemporaine n'a pas des angles morts scandaleux? Mais voyons donc. On n'est pas meilleur que les Corinthiens, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est fait de la même nature qu'eux. Deuxième élément ce matin, la nature de l'union sexuelle. Et là, j'espère que Dieu va venir toucher ton cœur, éclairer ton esprit, si justement pour toi la sexualité, c'est quelque chose de très, très banal. Très, très présent, mais très, très banal. Très, très nécessaire, mais très, très banal. Oui, OK. Regardez bien ce que Paul dit au verset 15 et 16. Il parle de devenir une seule chair. Il dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? » On parle en somme d'une relation sexuelle, d'accord? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voyez-vous, selon les Écritures, la sexualité pour l'être humain, c'est un acte beaucoup plus profond, beaucoup plus grand que simplement de copuler ou d'avoir un orgasme. C'est beaucoup plus profond. Je vous avais dit que c'était pas pour tout ce matin, là. Je vous ai averti. On n'est pas des animaux. Nous ne sommes pas des animaux. Si ta vision de la sexualité, c'est que c'est juste un truc animal, tu es incohérent parce que tu ne penses pas qu'on est juste des animaux. Si tu pensais qu'on était juste des animaux, ça serait simple. Ça ne te troublerait pas qu'il y ait 1 million de musulmans ouïghours dans des camps de travail en Chine pour fabriquer nos téléphones. Mais on n'est pas bien avec ça. On se dit qu'il faut trouver une autre solution, on ne peut pas acheter ces choses-là. On n'est pas des animaux. Et dans le domaine de la sexualité, c'est la même chose. La sexualité n'est pas un acte animal, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Et lorsqu'un être humain a une relation sexuelle avec un autre être humain, il y a une communion qui dépasse une dimension purement physique. Et c'est pour ça que cette intimité-là qu'on trouve dans le mariage, c'est là qu'on doit vivre cette intimité-là, est une représentation de notre relation avec Dieu, de notre intimité avec Dieu. Littéralement, c'est ce que Paul va dire dans Éphésiens, le même auteur dans Éphésiens va nous dire, le mariage et l'intimité du mariage est une représentation de l'intimité de ce que Dieu veut vivre avec toi. C'est vraiment beau, honnêtement. C'est vraiment beau. Dieu veut être encore plus intime avec toi que ce que tu pourras jamais vivre dans l'intimité d'une relation sexuelle dans ton mariage. Ça commence à être vraiment proche, vraiment intime, vraiment personnel. Et c'est ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ par son Esprit. Je pensais aux milléniaux, aux Z. La culture t'enseigne que la sexualité, c'est comme une espèce de dessert, tu sais, à consommer. Je disais tantôt, une boisson énergisante, un loisir, un hobby à explorer. Mais la sexualité, c'est plus que ça, c'est sacré. C'est quelque chose de sacré parce que tu es plus qu'un animal. Tu es un être sacré, quelle que soit ta religion, quelle que soit ton ethnicité, quel que soit quoi que ce soit, tu es un être humain, tu es un être sacré, tu portes en toi l'image de Dieu. Et par conséquent, la sexualité est un acte sacré en soi. Et c'est pour ça que Paul va dire, bien, tout autre péché, ce n'est pas contre ton propre corps. C'est très étrange lorsqu'il dit ça, mais quand tu vas vers une prostituée, tu pèches contre ton propre corps. C'est un peu troublant. Tu te dis, moi, mais attends un peu, si je mange trop de dessert, là, je fais un excès de table. C'est quand même contre mon corps. Je travaille fort. 54 ans, c'est plus de travail. Mais Paul dit, non, ça c'est une chose. Ça c'est une chose. Mais lorsque tu t'unis à un autre être humain sexuellement, il y a une communion spirituelle qui se produit là. Une communion mystique. Mystérieuse, c'est ça que ça veut dire, mystique. Mystérieuse, spirituelle. Qui nous parle de l'intimité que Dieu veut avoir avec nous par son esprit. Paul donne un conseil extrêmement radical. Il dit « Fuyez toute débauche ». Je vais vous lire une longue citation d'un auteur que j'ai beaucoup apprécié sur cette question-là. « L'immoralité est une atteinte à son propre corps. Le sens de ces mots est difficile à déterminer. De nombreux péchés tels que la toxicomanie, la gourmandise, même le suicide, ont des effets néfastes sur le corps, évidemment. Les mots de Paul ne font pas référence à la maladie ou à d'autres dommages causés par le péché. Au contraire, ces paroles sont liées à la discussion précédente sur les versets 12 à 17. Paul y a établi que le corps des chrétiens est uni au Christ. J'ai l'Esprit Saint de Dieu qui habite en moi, de sorte qu'ils deviennent eux-mêmes membres de Christ. L'union sexuelle avec une prostituée viole le corps d'une personne en l'amenant dans une communion injustifiée d'une seule chair et en faisant étalage de l'union mystique avec le Christ. J'expose l'Esprit de Dieu à cette débauche. C'est fort. Et c'est en ce sens que l'immoralité sexuelle est un péché unique contre le corps. Elle viole le fait le plus important de l'existence physique des croyants, leur corps appartient au Christ. Et Paul dira, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsqu'un être humain a une relation sexuelle avec un autre être humain, il y a une communion qui dépasse la dimension purement physique. Et il y a là une communion spirituelle qui demande à être gardée pour le mariage dans le cadre d'une alliance à la gloire de Dieu, parce que cette union intime que nous expérimentons dans le mariage illustre une communion plus grande que le chrétien expérimente avec Dieu. Amen? C'est mon dernier point ce matin. Et ça frappe un peu? Notre union à Christ. Notre union à Christ. Mon ami François vous a entretenu sur notre union avec Christ dimanche dernier. Je suis vraiment reconnaissant. Et Paul revient avec ça. C'est arrangé avec le gars des vues, puis c'est pas moi le gars des vues. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide ça. Verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est un avec lui, est avec lui un seul esprit. » C'est très mystérieux. Mon esprit est associé à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Christ, à l'Esprit de Dieu qui est en moi. Et c'est pour ça qu'on dit que le mariage, lorsque je me suis marié avec Esther et qu'on est devenu une seule chair, c'est une illustration d'une intimité beaucoup plus grande et beaucoup plus belle qui est offerte à tous les chrétiens, celle-là. Tous les chrétiens vivent quelque chose de plus intime, de plus fascinant, de plus merveilleux que l'intimité du mariage humain. C'est le mariage avec l'Esprit de Dieu. C'est le mariage avec l'Esprit de Dieu. Personne ne me connaîtra jamais aussi intimement que l'Esprit de Christ qui habite en moi. Personne. Mon épouse, ça fait plus que 30 ans qu'on est mariés. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est en moi avec une intimité que personne ne connaîtra jamais. Parce que son esprit s'est associé au mien. C'est absolument extraordinaire. Le même auteur, Richard Pratt, dit « La nature exacte de l'union des croyants avec le Christ est insaisissable et mystique, mystérieuse. De même, la nature de la relation une seule chair établie par les rapports sexuels présente une difficulté à de nombreux penseurs modernes. La vérité biblique est que les rapports sexuels unissent les corps des participants de sorte qu'ils deviennent une seule chair, les unissant de telle manière que les identités individuelles distinctes de leur corps s'estompent. » Et c'est pour ça que les chrétiens ne peuvent pas traiter la sexualité comme quelque chose de banal. Et on vit dans une société qui est hyper sexualisée. Ça ne semble pas la construire, cette société-là. Je veux dire, les indices de santé mentale ne s'en vont pas dans la bonne direction, là. C'est pas qu'on est beaucoup mieux qu'il y a 50 ans au Québec. On avait des angles morts à l'époque, on en a résolu certains, gloire à Dieu, c'est merveilleux, mais c'est pas que ça va tellement, tellement mieux dans notre société. Vous êtes professeur, vous enseignez à l'école, est-ce que ça va beaucoup mieux dans les classes qu'il y a 50 ans? Les mariages, les relations, est-ce que les générations Z, milléniaux, sont beaucoup plus heureux dans leur couple maintenant qu'ils sont libres? On a des couples heureux, épanouis. On a des angles morts dans la culture, et nous, comme chrétiens, on est appelés à discerner lesquelles de ces intuitions-là qui viennent de la culture sont des angles morts dans notre vie. Et l'outil que Paul nous donne ici, c'est que toi et moi, si tu es chrétien comme moi, nous appartenons à Christ. On est mariés avec Jésus-Christ. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai une liberté que j'aurais jamais pu concevoir. À chaque seconde de ma vie, je peux me tourner vers Dieu et dire, « Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je veux te glorifier. Qu'est-ce qu'on fait, là, Seigneur? J'ai encore quelques années à vivre ici. Très bientôt, je vais être avec toi dans la gloire. Avec ce corps, avec mon intimité, avec mes pensées, avec ce que je suis, je veux te glorifier, Seigneur. Je suis libre. » Paul va dire, « Le monde est à vous. » Oui, le monde est à nous, on part en mission, on annonce l'Évangile, on sert le Seigneur au travail, on proclame l'Évangile, on va être des témoins, on va être libre de tout asservissement. Mais ça demande à l'Église de réaliser qu'il y a des angles morts dans la culture. Dans l'Église de Corinthe, des gars arrêtaient, un petit arrêt vite avant de rentrer à la maison, on passe par le temple, hop, une prostituée. Maintenant, je vais aller aimer ma femme. Quels sont les angles morts dans ta vie, dans la mienne? Et un des tests, qu'est-ce qui t'a servi? Qu'est-ce que tu pourrais prendre comme décision maintenant, là? Je ne sais pas si tu as le guts, maintenant, de dire pour les 3 prochains mois, je coupe ça. Tous mes permis, c'est pas mal. Je peux arrêter quand je veux. Ben, veux. Tout de suite? 3 mois. Peut-être que Dieu va te montrer que finalement, tu perdais beaucoup de temps que tu aurais pu prendre pour aller vers des gens, les aimer, les servir, rencontrer ton Dieu, prier, le louer. Peut-être que tu vas découvrir que ça, il y avait d'autres liens avec ça. Il y avait d'autres dépendances, il y avait d'autres fuites. Tu te promenais comme une bébite d'anxiété parce que ton repos n'était jamais en Christ. Tu étais en compensation avec toutes sortes de dépendances au lieu d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Ton corps, le mien, si tu es chrétien comme moi, appartient à Christ. Et ça, c'est la liberté. Si tu n'es pas chrétien et tu dis, mais ils sont fous, ces Romains. Tu dis, mais ces chrétiens-là sont malades. Ils n'ont rien compris. Écoute, je suis marié depuis quelques décennies maintenant. J'ai aucun regret. Je suis vraiment béni. J'ai fait un choix. J'ai connu la vie avant. Hein? Malheureusement, ou dans la providence de Dieu, je me suis converti à 19 ans. C'est pas que je suis né dans cette religion-là, puis j'ai toujours été un bon petit chrétien. On n'est pas chrétien. On le choisit. On devient chrétien. On va aller ensemble dans la prière. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre, mais je termine avec cette idée-ci. Paul va dire au verset 18, « Fuyez la débauche. » Et je pense que Paul est en train de faire allusion à Joseph. Connaissez l'histoire de Joseph? Joseph qui était un serviteur de Dieu, qui servait dans la maison, était esclave, servait dans la maison d'un maître, il avait été libéré de prison pour servir. Et l'épouse du maître était insistante dans les désirs qu'elle exprimait à ce beau jeune homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est sauvé en courant. Fuyez la débauche. Est-ce qu'il y a des angles morts dans ta vie? Est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie qui t'empêche de marcher dans la plénitude de l'Esprit? Fuis la débauche pour vivre librement et glorifier Dieu en toute liberté. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on est venu devant toi ce matin pour recevoir ta parole. Je sais, Seigneur, que ta parole est percutante, elle est troublante. Je sais que ta parole nous met au défi de s'examiner. Je sais que ta parole est contre-culturelle. Souvent, elle entre en altercation directe, en confrontation avec la culture. Seigneur, j'aime le Québec, j'aime les Québécois, j'aime tellement d'aspects de cette culture, mais en même temps, il y a tellement de confusion dans la culture, Seigneur. Le compas moral de ma société, de cette province, de ce pays que j'aime tellement, Seigneur, qu'est le Canada, est déréglé. Et Seigneur, je sais que mon cœur à moi, mon compas moral personnel peut être déréglé aussi, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous parles par ta parole afin que volontairement, librement, Seigneur. Nous venions vers toi, repentants, désireux de marcher dans la plénitude de ton esprit. Seigneur, je te prie de venir par ta puissance nous visiter ce matin, que celui qui a telle ou telle dépendance, Seigneur, qu'il y renonce, que celui qui est confus prenne le temps de s'engager à étudier ta parole pour avoir des convictions bibliques. Il y a tellement d'enjeux, Seigneur. Souvent des enjeux qui sont très intimes. Ce n'est pas simplement des choses qu'on fait à la légère. Souvent, il y a beaucoup de souffrances associées avec toutes sortes de pratiques. Et on a l'impression d'avoir besoin de ça pour vivre, pour être, parce que d'autres domaines de notre vie nous font souffrir, Seigneur. Mais en toi, Jésus, une paix, une grâce, un repos est disponible, Seigneur. Afin que, remplis de ton esprit, nous ne soyons asservis par rien, Seigneur. Libre d'aimer les gens autour de nous, libre de t'aimer, de servir, de chanter tes louanges. Seigneur, sauve, Seigneur, ton Église de ses angles morts, Seigneur. Viens éclaire nos cœurs, notre pensée, Seigneur. Viens, Seigneur, sauve nos enfants qui grandissent dans cette culture où toutes sortes d'intuitions leur sont inculquées, Seigneur. Viens te glorifier. Tu es plus puissant, Seigneur, que tout ce qui pourrait s'opposer à toi. Et donc, remplis ton Église de ton esprit, Seigneur. Conduis-nous dans l'intimité, dans la célébration de cette union que nous avons avec toi, Seigneur. Apprends-nous à jouir quotidiennement de cette intimité avec toi, avec confiance, Seigneur. Donne-nous le courage de renoncer à tout ce qui pourrait nuire à notre communion avec toi. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen.